Il est 7h.
Il faut faire mieux, enfin, c'est sûr que c'est un constat qui est un peu triste. Il faut essayer de se poser les bonnes questions. En tout cas, moi, je sais qu'il va falloir retourner au travail.
Richard Gasquet, sorti en 3-7 hier soir par Rafael Nadal. Aucun Français ne passe la barre du deuxième tour à Roland-Garros, du jamais vu depuis plus de 50 ans. On va y revenir, cette bérésina française à Roland-Garros, avec vous, Virginie Fulpin, dans l'édito sport.
Mais quand on est au fond du trou, on ne peut que rebondir. Ça pourrait être la maxime de ce tennis français à Roland-Garros.
On le verra à moitié plein ce matin. Ce n'est plus de la science-fiction. Quand la technologie sert à analyser le comportement des clients au supermarché, une centaine de magasins déjà équipés pour lutter contre les vols. Les défenseurs des libertés s'inquiètent. C'est le dossier de la rédaction à suivre. Dans ce journal aussi, la panne chez Orange est-elle à l'origine de la mort d'un enfant de 2 ans et demi en Vendée? Une enquête est ouverte. Concertation, discussion et prise de température auprès des Français. La méthode Macron pour les prochains mois, notamment sur une possible réforme des retraites dont on va parler juste après ce journal. C'est l'éclairage éco, Nicolas Barré, suivi du regard international, Vincent Hervoet.
Oui, la France tape du poing sur la table au Mali. Les putschistes doivent donner des gages. En attendant, Barkhane suspend toute coopération avec l'armée malienne. Et à terme, c'est le repli qui est envisagé.
Et juste avant 7h30, êtes-vous swag? Est-ce que vous savez ce que veut dire swag? L'origine de cette expression avec Stéphane Bern, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7 heures, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est presque devenu une blague chaque année, les Français qui déçoivent à Roland-Garros. Mais aujourd'hui, le tennis tricolore va devoir se remettre en question en matière de formation, en matière d'accompagnement. Car après Richard Gasquet balayé en 3-7 hier soir par Rafael Nadal, le bilan de cette édition 2021 est sans appel. Il n'y aura aucun Français au troisième tour avant même la fin de la première semaine. Tous nos représentants sont éliminés.
Axel May, c'est tout simplement le pire bilan pour la France à Roland-Garros depuis 1968.
Oui, alors la Fédération française de tennis ne se faisait pas d'illusions. Elle savait que ce serait compliqué encore cette année, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, signe de l'embarras, hier soir à la Fédération, c'était motus et bouche cousue avec une communication verrouillée. Du côté des joueuses, 8e de finaliste l'an dernier, Fiona Ferro est passée cette fois à la trappe dès le deuxième tour.
Il faut faire mieux, enfin, c'est sûr que c'est un constat qui est un peu triste. Il faut essayer de se poser les bonnes questions. En tout cas, moi je sais qu'il va falloir retourner au travail.
Oui, mais le travail seul ne suffit pas. Sinon, comment expliquer que Fiona Ferro, qui est la meilleure Française actuellement, pointe au 51e rang mondial seulement. Chez les garçons, Gaël Monfils est certes 15e encore, mais il a bénéficié du gel du classement en raison de la crise sanitaire. Joe Wilfried Tsonga, battu lui d'entrée de jeu, appelle à la bienveillance.
J'ai envie de transmettre. Moi, j'ai surtout envie de bienveillance, quoi. C'est ce que j'essaye de faire avec les plus jeunes. Ils sont déjà très très bons et le but, c'est de les accompagner dans leur quête.
En attendant, il y a ce constat, la France a atteint le fond comme jamais à Roland-Garros. Et cette année, si vous voulez encore voir des Français, il faudra vous contenter des compétitions en double et du tournoi junior.
Merci Axel May. Je vous le rappelle, à l'édito sport à 7h20 avec Virginie Fulpin et bien sûr sur la radio officielle de Roland. Le journal de Roland-Garros à 8h30, c'est avec Corinne Boulou. Il est 7h03. Les conséquences de la panne d'Orange. Un nouveau décès annoncé hier soir va faire l'objet d'investigations.
L'impossibilité de joindre les services d'urgence est-elle à l'origine de la mort d'un enfant de 2 ans et demi? Charles Guyard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. La victime a succombé dans la matinée en Vendée après plusieurs appels sans succès de sa maman.
Oui, en effet, c'est un petit garçon de 28 mois qui est décédé hier matin en Vendée, conséquence d'un arrêt cardio-respiratoire signalé par la maman à 8h21 par un appel au SAMU, pendant que celle-ci, guidée par un régulateur au téléphone, prodigue les premiers soins à domicile. Pompiers et SMUR sont engagés à 8h22 et une équipe du SMUR pédiatrique de Nantes se met également en route à 8h46. D'après la chronologie de l'intervention révélée par l'Agence régionale de santé, tout est donc allé vite jusqu'à la mort déclarée de l'enfant à 9h25. Mais c'est ce qui se serait passé plus tôt dans la matinée, en revanche, qui pose question. Jean-Yves Coiplet, directeur de l'ARS Pays de la Loire.
Donc avant 8h21, la maman a indiqué avoir tenté d'appeler pendant une heure le 18, puis le 15, mais sans succès. Et c'est en trouvant via les réseaux sociaux le numéro à 10 chiffres qu'elle a pu à ce moment-là joindre le SAMU.
Un temps précieux, essentiel, même compte tenu de l'âge du patient et la nature de l'intervention aurait donc été perdue. Une enquête administrative a été ouverte pour déterminer si les chances de survie du bébé ont donc été réduites en raison de la panne nationale.
Enquête aussi à Vannes. Après la mort d'un homme, 2 autres décès suspects ont été signalés à La Réunion et à Aix-en-Provence.
Il remet l'ouvrage sur le métier. Emmanuel Macron relance l'idée de réformer les retraites. Il ne l'a pas exclu, en tout cas hier lors de son déplacement dans l'Aude, que vous suivez pour Europe 1, Jean-Rémy Baudot. La question maintenant, c'est de savoir comment.
Oui, on sait qu'Emmanuel Macron veut faire une dernière grande réforme avant la fin du quinquennat. Pourrait-il donc relancer sa très controversée réforme des retraites ? Écoutez sa réponse.
C'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça ne sera pas la même et rien n'est exclu.
Il ne ferme pas la porte à une nouvelle réforme des retraites, Emmanuel Macron, mais pas selon le schéma de 2019.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état.
La faute, selon lui, à une réforme très ambitieuse, extrêmement complexe. Il reconnaît qu'elle a généré de l'inquiétude dans le pays. Et le président d'expliquer la manière dont il compte trancher avec de la concertation.
Ça passe par des travaux que j'ai demandés, les consultations que je vais mener au niveau national avec les forces politiques, syndicales et patronales, et ces déplacements sur le terrain où je peux écouter les élus locaux, où j'écoute nos services de l'État et je suis en direct avec nos concitoyens.
Et voilà l'enjeu de ces déplacements, tester ces futures réformes directement sur le terrain. Comme le dit l'un de ses proches conseillers, ça doit permettre de sortir les priorités à hiérarchiser pour la campagne. Fin de citation. Un message pour ceux qui doutaient encore qu'Emmanuel Macron était bien déjà en campagne.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Il a évoqué un engrenage et avoué une nouvelle fois avoir participé à un système illégal de financement de campagne électorale. L'audition hier au procès Big Malion de Jérôme Lavrieux.
Et pour s'expliquer, celui qui fut directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy a parlé d'une immense désorganisation, Chloé Triomphe.
Oui, pour résumer cette campagne, Jérôme Lavrieux utilise un mot, une dinguerie, toujours plus de meetings, 44 au final, avec une accélération de la cadence indexée sur les sondages quotidiens qui, après chaque meeting, montait d'un demi-point. C'est comme ça qu'on est parti en sucette, explique à la barre l'ancien directeur adjoint de la campagne, qui s'emporte parfois et manie l'ironie cinglante à chaque fois que le tribunal le pousse dans ses retranchements. Car la présidente a quand même un doute sur ses aveux. Jérôme Lavrieux reconnaît certes sa participation à un engrenage parfaitement illégal, mais il nie toute implication concrète dans le montage des factures au fil de l'eau. Pour lui, ceux qui ont fait les comptes à la fin ont eu une équation simple mais impossible à la fois à résoudre, faire rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'un litre et demi, soit comment faire rentrer les quelques 44 millions d'euros dépensés dans un budget inférieur de moitié. Quand on m'a proposé cette solution de fausse facturation, je n'ai pas pensé que c'était la bonne solution, mais que c'était la seule. Je sens qu'on veut me faire porter le chapeau et apparemment j'ai une tête à chapeau, ironise encore Jérôme Lavrieux, bien décidé à ne pas tomber tout seul.
Un récit d'audience signé Chloé Triomphe pour Europe 1.
Dans votre journal, à présent, ce coup de projecteur sur une nouvelle forme de surveillance qui s'invite dans notre quotidien, hein, puisqu'elle commence à être déployée dans les supermarchés. Et c'est vous qui allez nous en dire plus, Théo Manval, bonjour.
Bonjour.
On parle là de surveillance biométrique. Ça consiste en quoi exactement ?
Eh bien, ce sont des logiciels d'analyse d'images installés sur les caméras de surveillance déjà présentes en magasin pour détecter en temps réel un comportement suspect. L'idée, c'est que l'être humain derrière les écrans ne peut pas tout voir, donc l'intelligence artificielle va repérer elle-même un potentiel voleur à partir d'un geste, une main qui va d'un rayon directement au sac à main par exemple. C'est un enjeu de taille dans le commerce parce qu'on estime à près de 7,5 milliards d'euros le montant de marchandises volées chaque année en France dans les magasins. Plusieurs start-up ont donc développé ce type de logiciel intelligent. Je vous emmène dans un supermarché parisien où le gérant s'en est doté.
Ça fait un an et demi à peu près qu'on est équipé. Il y a des gens qui prennent un produit et mis dans un sac ou bien mis directement en dessous de la veste. On reçoit comme alerte directement l'application sur le téléphone.
Bah voilà, là, par exemple, là, j'ai aussi un alerte. C'est image réelle qui arrive tout de suite. Et dans ce cas-là, on regarde, on va vérifier.
Alors, est-ce que vous pouvez me montrer du coup ?
Bien sûr. Vous voyez, je vois la dinde, elle est là. Elle a pris du saumon.
4 paquets de saumon surgelés.
5. Donc, elle est directement en dessous.
Dans sa jupe.
Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça que la dame, elle va pas payer. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai resté devant la porte, là. J'ai demandé l'article gentiment.
Et quel bilan vous en tirez, alors, de ce genre de choses ?
Alors, grâce à l'application, on a attrapé pas mal de voleurs, quasiment tous les jours. Si on regarde par semaine, entre 150 et 200 euros.
D'économiser, du coup.
Exactement, c'est ça. Donc, pendant 6 mois, on a arrivé à 6 000 euros.
Donc 6 000 euros de marchandises sauvées en 6 mois pour ce gérant de supermarché. On comprend l'intérêt pour lui. Hein. Le son de cloche est évidemment différent, Théo, du côté des associations de défense des droits et des libertés qui y voient un problème majeur.
Ah oui, éthique et juridique, car l'alerte déclenchée par ces logiciels se base sur des données, on l'a entendu, hein, liées à nos gestes, nos comportements, même notre température. Les 3 fabricants français démentent utiliser des données biométriques au sens strict, c'est-à-dire qui permettent d'identifier un individu, mais le flou persiste. Or, leur utilisation est très encadrée par le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données. C'est ce que rappelle Martin Drago, juriste à l'association La Quadrature du Net.
Les données biométriques sont des données qui sont spécifiquement protégées, encore plus que les autres données personnelles. Et le principe de base, c'est l'interdiction de traitement de ces données. et ce n'est que par exception que vous pouvez les utiliser. Or, dans la liste, aucune ne peut marcher pour la surveillance des supermarchés. Donc on peut en déduire que la plupart de ces logiciels de surveillance des supermarchés sont aujourd'hui illégaux. Et on aimerait bien voir la CNIL protéger nos données personnelles. Donc on l'a interrogée, on espère qu'elle va nous répondre.
Alors justement, Théo, vous l'avez appelé, vous aussi, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qu'est-ce qu'elle vous répond ?
Elle reconnaît clairement un vide juridique encore sur le sujet, puisque la loi actuelle ne prend en compte que les caméras, on va dire, classiques. La CNIL nous répond qu'elle va, je cite, se prononcer durant l'été ou à la rentrée sur les conditions dans lesquelles ces caméras et logiciels intelligents peuvent être déployés. Plus d'une centaine de supermarchés en France en seraient déjà équipés.
Voilà, c'est le monde qui change et parfois on se demande si c'est bien ou pas. Dossier signé Théo Manval pour Europe 1.
Mais fascinant que cette histoire de caméra qui est capable de savoir si vous portez la main vers votre sac ou vers le caddie.
Aussi.
Finalement, moi qui ne sais jamais où j'ai mis mes clés, j'aimerais bien avoir ça dans le cerveau. Merci Théo Manval et merci Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Sophie Echen. Et à la une, écoutez bien, 60 millions de consommateurs qui alertent sur les produits bio, parfois plus gras, plus sucrés que leurs équivalents non bio, vous l'entendrez. Un Français au sommet de l'industrie du jeu vidéo, Nicolas Doucet, directeur de Team Asobi, studio historique de Sony au Japon. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et on reparle de la réforme des retraites. Alors pas la grande, celle que personne ne comprenait, mais une réforme qui permet de faire des économies. Il y a des pistes.
On en parle dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1, l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le quoi qu'il en coûte ne doit pas être synonyme de dérive sans fin des comptes publics. C'est le message délivré hier par Emmanuel Macron.
Mais vous savez, il y a un chiffre qui fait peur, c'est 220 milliards d'euros. Ce chiffre, il a été dévoilé il y a moins d'une semaine. C'est le déficit budgétaire de l'État français attendu cette année. Alors pour le rendre un peu plus concret, disons que ce déficit, 220 milliards, ça représente 3 années de recettes de l'impôt sur le revenu. Bref, vous le voyez, les comptes publics, vous le saviez, vont mal, très mal. La France n'a jamais connu un tel niveau de déficit depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc trouver des sources d'économies.
Et d'où le retour de la réforme des retraites.
Eh bien voilà, alors oui, pourquoi ? Parce que c'est le seul levier finalement qui permet, en bougeant un ou deux curseurs, on va y revenir, de dégager rapidement des milliards, voire des dizaines de milliards d'économies. Je dis en bougeant des curseurs parce qu'Emmanuel Macron a bien précisé hier qu'il n'était pas question de remettre sur le tapis la très ambitieuse réforme systémique, la retraite par points, ambitieuse, mais que personne ne comprenait, donc anxiogène. Non, il est question ici de réforme paramétrique, comme on dit, donc de jouer sur ces curseurs qui sont durée de cotisation ou âge légal de départ à la retraite.
Ce sont les pistes sur la table ?
Oui, alors la piste la plus évidente consisterait à accélérer la réforme Touraine qui prévoit, je le rappelle, de porter la durée de cotisation pour une retraite à taux plein à 43 annuités en 2032. Alors évidemment, si on rapproche cet horizon, par exemple 2025, on économise tout de suite 1,5 milliard d'euros, de quoi financer par exemple les mesures pour les jeunes ou les petites retraites. Autre piste possible, durcir encore la réforme Touraine en augmentant les annuités nécessaires pour une retraite à taux plein, donc aller au-delà des 43 annuités. Puis troisième piste possible, cette fois plus radicale, augmenter l'âge légal, qui est de 62 ans actuellement, par exemple à 64 ans. Si on l'augmente chaque année de 6 mois, on économise 20 à 25 milliards d'euros. C'est considérable. Le message, vous l'avez compris, c'est de dire que quand on a un tel niveau de déficit public, eh bien, il serait irresponsable de ne pas chercher des sources d'économie. On ne peut pas laisser aux générations futures la facture du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire une dette énorme et en plus, un déficit abyssal du régime des retraites.
Voilà pour l'addition et ces 220 milliards d'euros, le déficit, le côté plus politique. On en reparle dans l'édito de Nicolas Bétou à 7h50 tout à l'heure. Merci Nicolas Barré. Il est 7h15 sur Europe 1. L'heure de retrouver Vincent Hervouet et son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous les sexagénaires.
La France, qui échapperont, hein, évidemment on le comprend, à une éventuelle réforme des retraites à venir. La France, Vincent, suspend sa coopération avec l'armée malienne. C'est grave ?
Alors c'est un coup de gueule. Emmanuel Macron avait lancé un premier avertissement dans le journal du dimanche en affirmant qu'il ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Ce coup de menton a été pris pour un coup de bluff. La suspension des opérations avec les forces armées maliennes, c'est la deuxième salve. Le nouveau pouvoir à Bamako ne fera pas n'importe quoi ou alors il se débrouillera tout seul.
10 jours après, la France veut des garanties des putschistes.
Oui, les Américains ont été moins patients, ils ont suspendu aussitôt leur programme de coopération. La France, elle aussi, déteste cette mise devant le fait accompli, mais elle a attendu que la poussière retombe, que le nouveau pouvoir s'explique. Les dirigeants de la région, notamment ceux du G5 Sahel, ont convoqué le colonel Assimi Gaïta, et il a été habile, peut-être trop. Ils ont entériné son coup de force en échange de promesses vagues, des élections début 2022, si tout se passe bien, et la nomination d'un civil Premier ministre. Le colonel est rentré à Bamako, persuadé d'avoir les mains libres. Il prépare son investiture lundi prochain, sans prêter attention à Emmanuel Macron. Il le défie même en incarnant une ligne que la France récuse, la connivence avec l'islam politique, l'amorce d'un dialogue avec les djihadistes et puis aussi des accointances avec la Russie.
Oui. Est-ce que l'opération Barkhane peut continuer ?
À long terme, évidemment, ce serait intenable. La France ne va pas faire la guerre au Mali en ignorant l'armée malienne et encore moins contre l'armée malienne. Sauver le Mali des Maliens sans les Maliens, il y a des limites au quoi qu'il en coûte. À moyen terme, il y a la campagne présidentielle en France et l'Élysée est tentée de sonner le repli pour le faire tête haute. Il ferait peut-être une victoire sur le terrain. Par exemple, le scalp d'Ia Gagali, le chef Touareg à la tête du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et à court terme, eh bien, les 5100 hommes de Barkhane vont continuer la traque des djihadistes avec un dégât collatéral quand même. La mise à l'arrêt de la force Takuba avec les Tchèques, les Estoniens, les Suédois, des forces spéciales qui accompagnaient au combat l'armée malienne. Les Belges et les Danois devaient arriver en renfort, mais ils peuvent défaire leur pactage. Ce laboratoire d'armée européenne est stoppé net.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent, il est 7h17. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin et juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern.
Vous êtes cool, vous êtes swag. D'où vient cette expression ?
La réponse dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus sont... Ça c'était l'édito d'hier, pardonnez-moi, je me mets sur la bonne page.
Ils ont toujours gagné.
Les Bleus ont toujours gagné contre le Pays de Galles,
ouais,
tout va
c'est
bien.
Ça.
Non mais je voulais quelque chose de plus positif parce que là on va parler du tennis français et c'est peu ragoûtant. Virginie, le tennis français qui est au fond du trou, on peut le dire, hein. Aucun représentant. Alors la blague de la deuxième semaine, même pas, on n'a pas passé le deuxième tour de Roland-Garros, ni chez les femmes, ni chez les hommes. C'est une triste première dans l'histoire depuis 1968, on remonte
ouais,
à 68.
C'est ça, l'ère open en fait.
Ouais. Pourtant pour vous, il faut prendre ça comme une bonne nouvelle. Il va falloir nous expliquer, Virginie.
Alors ce zéro pointé peut être l'électrochoc dont on avait besoin. Un échec historique pour enfin regarder la réalité en face. Ça fait plusieurs années que le tennis français est sur une pente descendante et savonneuse. Mais d'habitude, il y a toujours un joueur ou une joueuse à Roland-Garros pour être l'arbre qui cache la forêt du néant. Et on se concentre sur cette éclaircie pour se bercer de l'illusion que tout ne va pas si mal, finalement. L'an dernier, par exemple, c'est Hugo Gaston qui avait joué ce rôle. Et on avait préféré s'extasier sur ses performances. Et il y avait de quoi plutôt que de voir le vide derrière. C'est humain, mais c'est dangereux. Cette année, rien ni personne pour se raccrocher aux branches. Ben au moins, comme ça, c'est clair, on n'a plus d'autre choix que de l'avouer sans détour. Le tennis français ne va pas bien. Vous savez, parfois, c'est utile de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Donc, la fameuse phrase « Il n'y a plus de Français à Roland-Garros » qu'on attend chaque année, mi-amusé, mi-fataliste. En 2021, elle arrive un peu en avance. Mais on avait peut-être besoin de ça pour ouvrir les yeux.
Alors, ouvrir les yeux, d'accord, mais on fait quoi ensuite ?
Alors, c'est compliqué de tirer les leçons d'un échec collectif dans un sport individuel. La fédération ne peut pas créer toute pièce un champion ou une championne, mais son devoir, c'est que les conditions soient réunies pour que les jeunes joueurs puissent éclore. Et manifestement, le système est grippé. Une nouvelle équipe est arrivée à la tête de la Fédé en janvier, donc on ne peut pas lui imputer l'échec actuel, évidemment. Mais maintenant, c'est elle qui doit relever le défi. Le tennis a changé. Il y a aujourd'hui de nombreuses structures d'entraînement privées, notamment, qui fonctionnent bien. Et plutôt que de les regarder d'un air hautain, il faudra peut-être travailler ensemble. C'est l'émulation qui fera la différence. Il faut aussi retrouver la notion de plaisir, de bienveillance. Ça ne sert à rien de pousser à fond les plus jeunes pour qu'ils gagnent des tournois à 12 ans et qu'ils soient complètement grillés une fois adultes. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel que le tennis français a trop longtemps négligé. Travailler sur le mental. On est à Roland-Garros, on a sous les yeux le meilleur exemple qui soit, Rafael Nadal. C'est d'abord dans la tête qu'il est meilleur que les autres, plus fort que les autres. Et ça, comme le reste, ça se travaille. Personne n'a de baguette magique, ça va prendre du temps, mais le bilan désastreux de 2021 peut être le tout début d'une nouvelle ère à venir.
Merci Virginie Fulpin. Je rappelle que nous sommes radio officielle de Roland-Garros. On ne se réjouit pas de voir les Français sortis. On peut se moquer.
Non, mais bien sûr
on
que
va
non,
se moquer avec Nicolas Canteloup avec grand plaisir, mais on va aussi essayer d'analyser ça à nouveau avec le journal de Roland-Garros à 8h30 avec Corinne Boulou ce matin. Si j'insistais sur le 1968, c'est que d'ordinaire, quand on remonte aussi loin, c'est pour dire on n'a pas gagné l'Eurovision depuis 77. Là, c'est 68. C'est encore plus loin. Merci Virginie Fulpin. 7h23 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport. L'édito sport. J'y vais arriver. C'est vendredi. L'heure de retrouver Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour, mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Souvenons-nous de cette séquence télé, maintes fois rediffusée avec Yves Mourouzi, une fesse sur le bureau de François Mitterrand, lui demandant la signification d'être branché. Eh bien aujourd'hui, 35 ans plus tard, je vais vous raconter l'origine du mot swag.
Ah, je me souviens que le président avait répondu qu'on ne disait plus branché mais câblé. On parle du président Mitterrand. Alors, être swag, avoir le swag, c'est être cool, c'est comme être branché. Ça nous vient d'Angleterre, j'imagine.
Oui, alors, disons-le, c'est clairement un anglicisme. Swag vient de swagger. Le swaggering, c'est bomber le torse, fanfaronner. Songez que Shakespeare utilisait déjà l'expression en 1595 dans sa pièce « Le songe d'une nuit d'été ».« What hemp and homespuns have we swaggering here ?» Qui sont ces personnages rustiques qui font les fanfarons.
Shakespeare était swag.
Oui, pour le savoir, il faudra lire le livre aujourd'hui. Avoir le swag, c'est avoir du style. Aux États-Unis, l'une des plus grandes idoles ont utilisé la formule. Jay-Z, Kanye West, même Justin Bieber a dit « All you got is swag ». Tout ce que tu dois faire, c'est avoir le swag. On est bien avancé. Hein.
Mais on a Stéphane Bern qui nous cite Jay-Z et Justin Bieber dans la même phrase.
Mais le swag, pour certains, c'est aussi un acronyme. Les lettres qui composent le mot auraient pu vouloir dire dans les années 60 « Secretly, we are gay ». Secrètement, nous sommes gays, pour désigner la communauté homo qui ne tenait pas à s'afficher comme telle. Voilà. Être swag, c'est être cool. Cool encore, un anglicisme qui pourtant est d'origine germanique. En allemand, cool, c'est être froid. Et qui est cool, garde son calme. C'est le fameux keep cool. Mais la vraie origine de cool, elle vient des esclaves noirs aux États-Unis. On désignait ainsi la capacité à dissimuler son bouillonnement intérieur pendant les humiliations subies. Et quand on connaît les horreurs perpétrées à cette époque, il y avait effectivement de quoi perdre son swag.
On vous retrouve à 16h tout à l'heure pour Historiquement Votre, Stéphane.
Alors on réunit aujourd'hui les infréquentables frères Goncourt, l'écrivain américain de génie qui nous a tous offert un breakfast chez Tiffany Truman Capote et sa plume souvent assassine, et Catherine et Liliane, les deux secrétaires les plus célèbres de Canal+. Leur point commun ? Des langues de vipère.
À tout à l'heure, 16h. Il est 7h25 et dans un instant, l'info avec Sophie Echen, la météo, Laurent Cabrol. Restez bien sur Europe 1. Laurent Cabrol, au moment où on se parle, le ciel est en train de nous tomber sur la tête.
Je vois, c'est un déluge. Hein, sur les images satellites, chers amis, franchement, si vous pouvez différer votre départ de chez vous, faites-le, hein, parce que c'est vraiment des trombes d'eau. Alors, pas seulement sur Paris, enfin sur toute la région parisienne, et ça va durer, bon, je pense que ça va durer les trombes d'eau pendant une heure à peu près encore, un peu, et ensuite ça ira beaucoup mieux. Mais derrière, vous avez encore très fortes pluies, il y en a aussi derrière, ça veut dire le centre, ça veut dire un petit peu l'Orléans. Et puis devant, vous en avez sur la Picardie aussi. Vous avez, mais c'est vraiment colossal ce qui tombe. Et malheureusement, ce sera un peu le temps que nous aurons aujourd'hui. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, je vous disais jusqu'à présent, j'étais assez cool lorsque je vous parlais des orages. Je disais, bon, les orages, on peut comme ça en parler de manière un peu légère. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis de manière très sérieuse. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Et donc, non seulement cette région parisienne est touchée, non seulement un peu la région du centre, mais tout ceci va se décaler vers les régions de l'Est, de sorte qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde sera servi, excepté les régions de l'Est qui seront un petit peu à l'abri, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, mais c'est à l'abri provisoirement. Donc prudence, 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 prudence. Il y a des températures qui baissent un peu, mais ça, on s'en fiche un peu aussi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Sophie Echen.
Et bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Si vous mettez beaucoup de sucre, des acides gras saturés, fût-il bio, dans une recette, ben à la fin, ça ne fait pas un aliment favorable.
Ah oui, ce n'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est forcément de meilleure qualité. La piqûre de rappel de 60 millions de consommateurs qui vous invite à scruter les étiquettes des aliments à la loupe. Dans ce journal, nous vous expliquerons pourquoi le vaccin Moderna arrive au compte-gouttes en pharmacie. Et puis l'appel lancé par Mila au procès de ses cyberharceleurs. La jeune fille veut que la peur change de camp.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Nicolas Doucet. C'est un Français à Tokyo à la tête de Team Asobi, studio historique de Sony PlayStation. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Pour évoquer les réformes il y a une vingtaine d'années, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin disait que la pente serait forte. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que cette pente ne sera pas douce. Aucun doute, la réforme des retraites, c'est reparti.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela peut paraître évident, mais il est parfois utile de le rappeler. Non, manger bio n'est pas toujours forcément meilleur pour la santé. C'est ce que démontre le dernier hors-série de 60 millions de consommateurs qui épingle certains produits transformés labellisés agriculture biologique. Ils sont parfois plus gras et plus sucrés que leurs équivalents non bio. Zoé Pallier.
Des rendements plus faibles, plus de besoins en main-d'œuvre, produire bio coûte cher, mais impossible de tout reporter sur les prix en magasin, explique Gérard Pascal, toxicologue.
Si on met sur le marché des produits bio dont le prix est supérieur de, si je parle de céréales, de 50% aux produits conventionnels, les consommateurs, même s'ils estiment qu'il y a un plus avec le bio, ils ne vont pas l'acheter. Donc il faut arriver à réduire le coût des produits bio. Ça peut passer pour une pizza par exemple, plus de pâtes et moins de garniture.
Moins de légumes aussi dans certaines soupes ou de sauces dans des lasagnes. Près d'un tiers des produits bio testés par 60 millions de consommateurs ont une moins bonne composition nutritionnelle que leur équivalent conventionnel. Mais il faut distinguer les produits bio bruts, riches en vitamines et bons nutriments, et ceux issus de l'agroalimentaire, estime François Veillerette. Il est porte-parole de l'association Génération Future.
C'est la transformation qui est en cause. Vous pouvez avoir des recettes qui sont de plus ou moins bonne qualité. Si vous mettez beaucoup de sucre, des acides gras saturés, bio dans une recette, à la fin, ça ne fait pas un aliment favorable.
60 millions de consommateurs conseillent donc de ne pas s'arrêter au label bio d'un produit et d'examiner toute l'étiquette.
Attention aux produits transformés, d'ailleurs, d'une manière générale. Bon, vous aurez compris que le gras, bio ou pas, ça reste du gras. Plus de 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde. Israël reste en tête dans l'avancée de la campagne de vaccination avec près de 60% de sa population totalement vaccinée.
Et la France n'est pas en reste. Plus de la moitié de la population adulte a reçu au moins une injection. Ces chiffres reposent beaucoup sur les centres de vaccination où l'on pique à tour de bras. Mais concernant la vaccination en ville, on observe quelques lenteurs. Les pharmaciens et les généralistes misaient beaucoup sur le vaccin Moderna. Mais Victor Dolande, les soucis logistiques s'accumulent.
Oui, 350 000 doses devaient arriver en fin de semaine dernière dans les officines. Seulement voilà, un camion transportant 145 000 doses est tombé en panne, retardant les livraisons dans 7 régions françaises. Ajoutez à cela des promesses de vaccins revus à la baisse par le laboratoire Moderna pour le seul mois de juin. Et forcément, au bout de la chaîne, des annulations de rendez-vous en cascade.
Les confrères, médecins et pharmaciens, se lassent de téléphoner, retéléphoner pour prendre des rendez-vous, les annuler, les reprendre.
Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Les commandes ne sont visiblement pas au rendez-vous. La quantité en stock de vaccins Moderna n'est pas suffisante pour assurer cette fluidité. Et maintenant, j'en suis à l'espérer pour le 1er juillet.
Un retard qui va forcément ralentir la campagne de vaccination. Un retard qui pénalise aussi certains Français, et ce pour deux raison. D'abord parce qu'une partie d'entre eux préfère se faire vacciner par son pharmacien ou son médecin généraliste, une personne de confiance. Et deuxième raison, certains patients qui habitent dans des zones rurales vivent trop loin des centres de vaccination. Pour recevoir une injection du vaccin Moderna en pharmacie, ils vont devoir encore attendre.
Victor Dolande. Une enquête ouverte en Vendée après la mort d'un petit garçon de 2 ans suite à la panne géante des numéros d'urgence. Sa maman n'a pas pu joindre les secours à temps. Pour l'instant, il y aurait 4 décès qui pourraient être liés à ce problème technique. Une nouvelle réunion de crise interministérielle a lieu en ce moment pour faire le bilan de la nuit.
Elle subit un déferlement de haine depuis 1 an et demi après ses vidéos polémiques sur l'islam. La jeune Mila a fait face hier à ses cyberharceleurs.
13 prévenus, âgés de 18 à 29 ans, jugés pour propos haineux, certains pour menaces de mort. La jeune femme a tenu à se confronter à eux hier avant l'audience.
Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. La peur change de camp et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre.
Le procès est renvoyé au 21 juin prochain. 2 ans après les faits, 3 policiers de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen pour homicide involontaire pour la mort d'un homme après une clé d'étranglement lors de son arrestation. Un geste interdit aujourd'hui. Attention, du côté de Lille, aucun bus ni tramway ne circule ce matin en raison d'un vaste mouvement de grève sur fond de revendications salariales.
On va terminer sur ce constat alarmant révélé ce matin par une étude britannique.
Mais sur les côtes de l'Arctique, la banquise fond en fait 2 fois plus vite que prévu. L'épaisseur de neige sur la glace avait été mal mesurée jusqu'à présent, mais de nouvelles images fournies par un satellite de l'Agence spatiale européenne ont permis de rafraîchir ces données et de les réévaluer.
Vous faites exprès pour rafraîchir les données ou...
Je ne sais pas.
Sophie Echen, c'est joli. Et Sophie Echen qui a du mérite, fallait garder ce sérieux, ce ton du journal de 7h30 au moment où Bertrand Chamerois est rentré trempé dans le studio. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, oui je suis sorti du métro au mauvais moment, une énorme chaussée, j'aurais dû commander un parapluie sur Amazon, en plus ils choient leurs employés.
On va en parler dans un instant, mais Sophie et Bertrand, je voulais vous poser la question, est-ce que vous reconnaissez ça? C'est le son emblématique d'une PlayStation qu'on allume. La PlayStation de Sony, non, vous ne l'avez pas.
Ah bah je ne l'ai pas du tout.
Il
n'est
pas là.
Figurez-vous que c'est un Français qui dirige le studio historique de Sony, Nicolas Doucet, directeur de Team Asobi. Ce sera mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, c'est la fin de la semaine, nous avons besoin de rêves et d'évasion. Venez, suivez-moi ce matin, je vous emmène dans le monde merveilleux d'Amazon. Un univers fantastique qui fait rimer rentabilité et efficacité. Deux mots qui riment déjà ensemble. Un endroit magique où les livreurs, faute de pause pipi, urinent dans des bouteilles en plastique pour ne pas perdre trop de temps car les employés trop lents partent au paradis des salariés. Oui, ils se font virer. Oh, regardez là-bas, c'est Mike qui pleure en emballant un colis. C'est son 15e burn-out. Vous trouvez ça horrible? Ça l'est. Mais ça n'est rien à côté de la joie de pouvoir recevoir une machine à hot dog en moins de 24 heures. C'est vrai que c'est trop cool. Tu commandes et le lendemain, paf, c'est sur ton paillasson. Après, savoir dans quelles conditions ça a été préparé, on s'en fout. Non, évidemment que c'est terrible. Mais ça, c'était avant. Face aux nombreuses critiques, la firme a décidé d'agir en aménageant des emplois du temps plus souples pour ses salariés et en réévaluant leur salaire. Et non, perdu, c'était une caméra cachée. Il y en avait partout, je vous ai vu. Vous y avez cru pendant deux secondes.
Oui, non, mais oui, c'est vrai, j'ai cru.
Vous êtes si naïf. Et non, en lieu et place, Amazon a décidé de mettre en place les Amazen. Et rien que le nom fait du bien, hein. Humour et relaxation. Amazen, ce sont des box plus exiguës qu'une cabine téléphonique, installées au milieu des entrepôts. Objectif, rendre le quotidien des employés plus doux, les aider à recharger leur batterie dans ces box de la taille d'un frigo. Des plantes, un ventilateur, de la musique zen et un catalogue d'exercices de santé mentale, de méditation et de pleine conscience. C'est ça, vous êtes un nénuphar ou un cormoran. Déployez vos ailes, détendez-vous. Mais pas trop longtemps quand même. Si vous traînez, c'est la porte. Ah, alors, vous me croyez si vous le voulez, mais contre toute attente, la mise en place de ces boîtes n'a pas rencontré le succès escompté. Les employés sont indignés. Oh, c'est dingue ça. Jeff Bezos leur offre une mini-boîte avec un ficus en plastoc, un ventilo et des morceaux de flûte de pan pour se détendre et ça leur suffit pas? Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Ils veulent pas qu'on les paye bien et qu'on leur file des vacances non plus. Oh, ces enfants gâtés. Les gens sont jamais contents, Mathieu. C'est un monde, ça.
Il est fou, ce garçon est fou. La touche âme, tous les matins. Regardez, il est encore indigné.
Ah, je suis
10 secondes après la chronique, il reste dans le. Indigné mouillé.
Mais oui, voilà, c'est comme Marion Cotillard indigné quand mouillé. Elle a incarné Piaf.
Il y a de ça. La touche âme, c'est tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand. Et on vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel.
Tout à fait.
Culture Média, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Et si on cassait des idées reçues sur le jeu vidéo? Fini l'ado attardé, sweat à capuche dans sa chambre avec de longues heures derrière l'ordinateur. Le gamer moyen aujourd'hui, le joueur à 40 ans, les enfants de Mario ont grandi. Un joueur sur deux est une femme et on joue beaucoup sur son smartphone. Au cœur de cette industrie, pour ne pas dire au sommet, mon invité est un Français à Tokyo, Nicolas Doucet, directeur de Team Asobi, le studio historique de Sony Jeux Vidéo au Japon.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Nicolas Doucet.
Bonjour.
Team Asobi, c'est le studio historique de Sony au Japon que vous dirigez. C'est un exploit, dit-on, pour un Français d'arriver à ce poste. Quand on crée des jeux vidéo, des technologies, quand on gravite dans cet univers, Frenchie au Japon, là, vous vivez un rêve éveillé?
Ah, complètement, complètement. Moi, le Japon, c'est une histoire d'amour depuis que je suis très jeune, en fait. Ma génération en France, on a été élevé avec, vous connaissez le Club Dorothée, les dessins animés japonais, beaucoup de cette culture. Et par-dessus, c'est venu se greffer évidemment l'amour des jeux vidéo. À l'époque, il n'y avait pas trop de jeux traduits. On jouait aux jeux vidéo, on avait le choix de deux langues. En fait, c'était souvent l'anglais chez nous. Et parfois, si on voulait jouer à des jeux un petit peu plus exotiques, ce serait carrément en japonais. Et à ce moment-là, on comprenait pas grand-chose, mais il y avait quelque chose quand même de mystérieux. Yes. C'est vrai, c'est vraiment un rêve de gamin d'arriver là-bas.
Alors, il faut bien comprendre, Sony et les jeux vidéo, c'est d'un côté les consoles, les machines, et de l'autre, les jeux. Et c'est là qu'on va vous retrouver. Mais d'un mot, parce qu'évidemment, vous le savez, je dois vous en parler, les pénuries de PlayStation 5, sorties à l'automne, pour certains, il faudrait attendre 2022, dit-on, pour en avoir une. Alors oui, il y a la crise Covid, il y a la pénurie des composants, mais là, on en a fait un produit rare, finalement, un produit d'exception. On a créé le manque.
Je pense pas du tout. Je pense qu'on aimerait que tout le monde puisse en profiter. C'est toujours pareil, on fait pas de produits pour pas les vendre. Je crois que c'est clair là-dessus.
Vous êtes, Nicolas Doucet, je le rappelle, au cœur du réacteur Sony et en pointe dans le monde de la réalité virtuelle. Les masques qui nous immergent dans un jeu à 360 degrés. Il y a eu un effet de mode, peut-être. Plusieurs constructeurs s'y sont mis. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est peut-être de sortir du côté un peu gadget, non?
C'est quelque chose qui est revenu souvent en fait dans l'histoire des technologies. Ça rajoute vraiment une dimension en fait aux jeux vidéo. C'est vraiment très intéressant. Et donc c'est une façon de jouer. C'est pas forcément le seul futur envisageable pour les jeux vidéo, je pense. À l'instar des, par exemple, des téléphones portables. Je pense que c'est un pan de technologie en fait qui va développer les jeux vidéo à sa manière, qui va inventer ses propres codes.
Mais pour vous, si je suis votre parcours, il y a quand même l'idée de développer des jeux ambitieux dans lesquels on sera de plus en plus immergé.
Le jeu vidéo a pris cette direction d'une manière générale. Si on compare les jeux vidéo des 30 dernières années où au début on déplaçait un personnage à l'écran de manière vraiment primitive, l'immersion c'est un mot assez vague. Mais avec la PlayStation 5, il y a une nouvelle manette qui s'appelle la DualSense, dans laquelle il y a un système de vibrations particulièrement précis dans lequel on peut vraiment recréer des sentiments, des sensations qui sont assez particulières. Par exemple, on peut sentir les gouttes de la pluie, on peut sentir les pas d'un personnage qui marche sur différentes surfaces. En fait, quand on parle d'immersion, c'est vraiment, vraiment large comme
terme.
Comme terme, exactement, oui.
Un de vos jeux retient particulièrement notre attention. Ce matin, Astro's Playroom, ce n'est pas un jeu qui reçoit beaucoup de critiques ou d'articles de promotion puisqu'il n'est pas à vendre. C'est un jeu installé d'office sur la PlayStation et qui sert de mode d'emploi, de la manette, de tuto de fonctionnement de la console. Mécaniquement, ça pourrait en faire le jeu le plus joué au monde.
Le but du jeu, c'était de présenter, alors à travers un personnage, Astro, qui est un petit personnage, un petit robot mignon, en fait, de le faire partir dans des aventures à travers lesquelles le joueur en fait, va découvrir un petit peu la manette et la console qu'il a achetée. Au final, c'est de la technologie, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on en fait, c'est l'expérience qui en ressort, c'est la magie, les moments vraiment où on a des expériences, on a des sensations qui sont toutes nouvelles.
Vous êtes donc un créatif, et là nous parlons, vous êtes aux origines du jeu vidéo moderne au Japon, le studio historique de Sony. Vous êtes comment là-bas, Nicolas Doucet, comme un Français qui leur apporterait de sa culture? Ou alors vous êtes fondu dans l'univers nippon, dans la vie, la culture des Japonais?
Alors je dirais il y a un petit peu des deux. J'ai voulu vraiment absorber au maximum la langue, la culture. J'ai beaucoup, beaucoup de respect, surtout pour le... On appelle ça le craftsmanship. Je ne sais pas trop comment traduire ça.
L'artisanat.
Oui, c'est ça, en fait. C'est cette finition, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours ébloui et qu'on retrouve dans tout au Japon. Et en même temps, évidemment, je me suis servi de mon expérience. Et donc, j'essaie aussi d'emmener un regard peut-être un peu plus occidental, de manière à ce que les jeux que l'on crée puissent avoir vraiment un impact un peu plus large.
Nicolas Doucet, ce sera ma dernière question. Quand on va raccrocher, parce qu'il y a quand même un sacré décalage horaire, on est en fin de journée pour vous au moment où on se parle. Quand on va raccrocher, vous allez jouer à quoi?
En fait, je vais jouer à un jeu qui est assez, qui est aussi un jeu de PlayStation au Japon, auquel je rejoue récemment, qui s'appelle Shadow of the Colossus. Alors c'est un assez vieux jeu, mais je me suis remis à y jouer parce que c'est un de ces jeux auxquels je rejoue tous les 2 ou 3 ans, juste parce que je pense que c'est une pierre angulaire du jeu vidéo et que ça me fait du bien, voilà.
Eh bien voilà, pour ceux qui voudraient se lancer, ils ont les références. Le Français qui dirige Team Asobi pour Sony au Japon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Et à très bientôt, à Paris ou à Tokyo.
Bien sûr. Au revoir.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h48, on va quitter le jeu vidéo dans quelques instants avec Nicolas Bétou pour l'édito politique. On va reparler de la réforme des retraites. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Je ne peux pas gérer l'été en pente douce. Je vais devoir prendre des décisions qui vont pour certaines être très difficiles. En quelques mots prononcés hier lors d'un déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron a tranché un débat qui divisait sa majorité.
Réformer ou ne pas réformer, that is the question, comme dirait Stéphane Bern. Depuis plusieurs semaines, depuis qu'on voit une lumière au bout du tunnel Covid, l'Élysée s'est remis à phosphorer sur l'après-crise sanitaire avec une question centrale. Maintenant que la stratégie de vaccination et le recours au pass sanitaire semblent tranchés et majoritairement acceptés par les Français, le quinquennat peut-il reprendre son cours normal ?
Son cours normal, enfin, sauf qu'on est plus qu'à 11 mois de la fin de ce quinquennat.
Et c'est justement le problème. Que faire de ces 11 petits mois lorsqu'on est à la fois président sortant et candidat à un second mandat ? Comment le chef de l'État doit-il agir aujourd'hui pour que le candidat en profite demain ? C'est un sujet qui a agité tous les présidents sortants, enfin du moins ceux qui se sont représentés. Et très vite, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, le débat a opposé ceux qui voulaient reprendre le fil du mandat, retrouver l'esprit réformateur du macronisme et des débuts de l'Élysée, avec ceux qui ne voulaient pas relancer de grandes réformes, qui craignaient de brusquer une société encore convalescente, une opinion publique fragile et avide de souffler.
Dans le Lot, Emmanuel Macron a parlé de réforme des retraites.
Voilà, parce que dans sa majorité, le clivage pour ou contre la pause dans les réformes s'est cristallisé autour de ce dossier avorté. Et ça tombe bien parce qu'il coche, comme on dit, deux cases. Premier avantage, le dossier retraite constitue un marqueur idéal de l'esprit de réforme. Et rouvrir ce grand chantier serait le moyen de renouer avec ce pourquoi Emmanuel Macron avait été élu en 2017. Mais un des ministres du clan des bougistes me faisait remarquer que réformer en distribuant des milliards d'euros ne sera jamais mis au crédit du président pour la bonne raison que, avec le Covid, tout le monde aurait fait la même chose. Réformer au moment où on sort de la crise, ce n'est pas distribuer un argent qu'on n'a plus, c'est prendre des décisions difficiles, ben justement, et c'est le deuxième avantage. Ouvrir le dossier retraite, c'est s'attaquer à celui de la dérive des comptes publics, c'est enclencher la sortie du quoi qu'il en coûte. Et de ce point de vue, c'est le sujet idéal.
Ok, idéal, mais risqué.
Ben c'est la position de ceux qui préfèrent un immobilisme prudent au mouvement. Emmanuel Macron a tranché et il a même évoqué l'hypothèse d'une candidature rendue impossible par la relance de ces réformes. Bon, ses fans peuvent se rassurer. C'est une formule, bien sûr, mais c'est une façon de rafraîchir son portrait de président qui a le goût du risque et de l'audace. Il faut dire que depuis 18 mois, ce portrait avait un peu pris la poussière.
Votre édito politique tous les matins à 7h50, c'est vraiment le sujet politique social de cette fin de semaine. Il faudra suivre évidemment ce qui se dit.
Et c'est en train de se trancher, en effet. C'est tranché.
Et il faudra suivre ce qui se dit aussi à 8h15 hein, sur Europe 1, Sonia Mabrouk qui reçoit Stanislas Guérini.
C'est le bon invité.
Délégué général de La République En Marche. Restez bien à l'écoute. Là, on revient, vous l'entendez, hein, dans la vie normale avec des sujets normaux, si j'ose dire. Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins. Et Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon donc Stanislas Guérini, invité de Sonia Mabrouk. Et Christophe Castaner, le chef des députés En Marche, voulait intervenir.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Nicolas Bétou.
Ça faisait longtemps. Bonjour.
Laurent Cabrol. Écoutez, je soupçonne que Madame Mabrouk va interroger Stanislas Guérini sur notre stratégie sur la régionale. Notre stratégie est très simple. Nous allons perdre en Ile-de-France. Nous allons connaître la défaite en région PACA. Nous allons également subir certainement un échec dans les Hauts-de-France. Mais il faut voir aussi le verre à moitié plein, puisque nous allons aussi ne pas gagner en Bourgogne-Franche-Comté. Mais rassurez-vous, la victoire va aussi nous échapper en Auvergne et en Rhône-Alpes.
Elle est donc voulue, cette stratégie ?
Mais bien sûr. C'est l'élection importante. Nous ne sommes pas dupes. L'élection importante, les Français le savent. C'est la présidentielle. Pour la gagner, la stratégie est simple. Vous savez, c'est comme le Tour de France. Nous allons laisser partir devant le Rassemblement National, pardonnez-moi. Bien partir devant. Et dans le dernier kilomètre, nous nous rendrons compte que nous ne pourrons plus le rattraper. En vous le disant, je réalise que notre stratégie est peut-être encore affinée. Peut-être.
En le disant.
Voilà.
Oui.
On va affiner.
Non.
Oui, c'est fini.
C'est terminé. Pardonnez-moi, j'espérais la stratégie, j'espérais du développement. On va affiner.
Non.
Mais quand vous finissez d'affiner.
Je continue. J'ai mon crayon à papier HB, ma gomme.
Exactement. Et puis on se rappelle. Merci Nicolas Canteloup à 8h45. La revue de presque sur Europe 1. Et vous l'avez entendu, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. À 8h15, au micro de Sonia Mabrouk. Il est 7h55. À suivre la météo de Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous. Europe 1. Et nous sommes avec Laurent Cabrol. Alors, on a cru que le jour se levait, puis finalement, il fait nuit, et puis il tombe des seaux d'eau, Laurent. C'est le déluge, on peut le dire.
C'est-à-dire que cette zone orageuse est vraiment intense, très, très intense. Et nous avons, au-dessus de Paris, alors je ne fais pas du parisianisme par plaisir, parce que vraiment, Paris, il y a 20 millions d'habitants. Il y a 20 millions d'habitants qui doivent vraiment souffrir de la pluie, parce que les orages, c'est un peu comme s'ils se donnaient la main, vous voyez. Il y en a peut-être sur 20 km de large, et ils se donnent la main, et orages l'un à côté de l'autre, et ils sont en train de traverser l'île de France. Et là, franchement, c'est impressionnant parce que on a des couleurs sur les images satellites. Là, c'est dans les couleurs les plus rouges foncées, et on est vraiment dans des trombes d'eau. Et j'ai l'impression que ça a ralenti un petit peu, que ça va pas si vite que ça. Donc, moi, je vous prévoyais la fin pour 9h. Je pense que vers 9h, ce sera fini, et nous aurons bien sûr de la pluie. Hein. Et alors, maintenant, je voudrais quand même enchaîner sur d'autres régions, parce que la Picardie va être concernée, l'Oise est déjà concernée, et puis d'autres régions de la France le seront dans le courant de la journée, puisque pratiquement tout le monde aura eu son passage orageux, excepté le Flores qui l'aura un petit peu plus tard. Mais tous ces orages que nous voyons là vont traverser la France d'ouest en est. Alors l'ouest est déjà préservé parce que c'est passé. Bretagne, Normandie, Cotentin, Bretagne, Cotentin, c'est déjà un petit peu à l'abri. Mais tout le reste va être touché, va être concerné, toutes les autres régions. Donc prudence ce matin et dans la journée.
Merci Laurent Cabrol.
Oui.
Bon, on va sécher et puis on va vous retrouver. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous savez très bien que Corinne Boulou vous attend à 8h30 pour la météo de Roland Garros. Ouais, ça ne sera, hein.
Sera pas fameux. Ouais. Simplement, je voudrais ajouter que demain et après-demain, ce sera beaucoup plus calme et même très ensoleillé sur les deux tiers de la France.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde changer.